français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
Salut à vous, bienvenue sur votre radio locale si vous nous rejoignez à la recherche du groove perdu. Session numéro 398. Une émission à géométrie variable produite depuis 2011. Et cette semaine, c'est la rentrée, un peu tardive certes, mais la rentrée quand même. On démarre à cette occasion un cycle d'émissions sur l'histoire du reggae en France. L'année dernière, je vous ai concocté une série similaire sur le hip-hop en 17 épisodes. Je sais pas s'il y en a autant. Mais cette fois-ci, on s'attaque à un autre mouvement musical et culturel majeur en France, à savoir le reggae. On en entend partout aujourd'hui, à la radio, à la télé, sur le net, même si on entend beaucoup moins que le rap. Comme le hip-hop, c'est devenu un peu mainstream, même s'il fut un temps pas si lointain où le mouvement était très underground et vivotait grâce à une poignée de passionnés. C'est de ça qu'on va parler cette semaine. Avant d'aller plus loin, les semaines suivantes, on va causer des pionniers des années 70. Comment et quand le reggae est-il arrivé en France? Quels sont les premiers à comprendre toute la force du message de ces Dre 2 venus de la Jamaïque? Pour cette première émission, je me suis pas mal appuyé sur le travail de l'ami Ismo de l'émission Power Station, qui a fait une émission spéciale sur les pionniers du reggae en France. C'est la numéro 38, et puis aussi sur le site Facebook Les Pionniers du Reggae en France, où on trouve beaucoup d'infos. J'ai fafouillé aussi pas mal sur le site Paris 70, qui regroupe beaucoup d'informations sur le sujet. Un site tenu par un des activistes reggae de la première heure en France, j'ai nommé Bernard Bacos, aka General Burning. Voilà pour les sources principales, mais globalement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En tout cas, rien de synthétique et de pédagogique pour celui qui n'y connaît pas grand-chose. Voici donc les clés de l'histoire du reggae français distillée à travers quelques émissions. Probablement jusqu'à la fin de l'année et même un peu plus, on verra selon l'inspiration. Le reggae a commencé en France de manière plutôt anecdotique à la fin des années 60 à travers des hits anglais de Desmond Dekker, de Johnny Nash ou de Jimmy Cliff. Auparavant, il y avait eu le ska et le blue beat avec My Bolly Lil Up de Millie ou Prince Buster qui animait quelques booms vers le milieu des années 60. Voilà pour démarrer les premiers sons venant de Jamaïque entendus par les Frenchies de l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais voilà où tout démarre, musique.
You. don't want to hear it. No more fussing and a fighting, baby. Hold me tight. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow, girl. Our future's bright. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see you were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be all right, baby.
1973, c'est le premier disque à reggae en France, boulevard Saint-Germain, pardon, à Paris, qui ouvre. C'est le magasin Givaudan, où on pouvait voir en devanture les tronches de U-Roy, Big Ruth, ou le triple album de Countessy and the Mystic Revelation of Rastafari. Philippe Garnier est le premier dans Rock and Folk à écrire des articles sur la musique jamaïcaine, dans lesquels il expliquait les ghettos de Kingston, la musique rastafarienne, les Wailers, etc. De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, c'est l'explosion du reggae grâce à la communauté antillaise et notamment jamaïcaine qui est très présente sur place. Et puis aussi grâce à cette reprise signée Clapton, I Shot the Sheriff, sortie en 1974. Moins bonne que celle de Bob, mais plus abordable pour le grand public. On l'entend un peu aussi en France à l'époque. Nous sommes en 1974 et les vibes du reggae débarquent tout juste dans les médias. C'est parti.
I plan a
1975, sortie de l'album Natty Dread de Bob Marley, le reggae prend une dimension internationale. Une émission radio commence à en parler, quelques pistes de reggae par-ci par-là, souvent en ouverture d'émission. Ça se passe sur France Inter et ça s'appelle Bananas, émission spécialisée dans les musiques tropicales et co-animée par Patrice Blanc-Francard et Bernard Lenoir. 1975 ou 1976, les sources divergent sur le sujet. C'est aussi le premier concert de reggae en France avec les Anglais de Cymarons. Viendront ensuite se produire les années suivantes des stars jamaïcaines comme Culture, Tootson, The Maytos, Burning Spear, Dillinger, Gladiators, 76. C'est aussi la date de sortie du premier enregistrement de reggae français. Il figure sur l'album L'Homme à la tête de chou. C'est pas les Wailers du coup, ça sonne pas exactement comme du reggae jamaïcain. Et ça, c'est intéressant, c'est le début de l'histoire du reggae français. On s'inspire des originaux, mais on fait pas exactement pareil. Et puis après ce premier essai signé Gainsbourg, juste pour l'histoire, car le morceau est vraiment pourrave, on s'écoutera le morceau C'est le reggae, paru la même année de l'ami des baignoires. J'ai nommé Claude François, nous sommes en 1976 et le reggae fait ses premiers pas dans les studios d'enregistrement parisiens. Musique.
Quand Marie-Lou danse reggae, ouvrir baguette et prodiguer, salutations distinguées de petits serpents katangais. Quand Marie-Lou danse reggae, sur Marie-Lou passer un guet, beaucoup caresses et endiguées, spermatozoïdes aux aguets. Quand Marie-Lou danse reggae, au bord climax faire le guet, changer vitesse, changer braquet et décoller avion breguet. Quand Marie-Lou danse reggae, elle et moi plaisir conjugué. En Marie-Lou moi seringué, faire mousser en meringué. Jamais, jamais épilogué, record à corps homologué. Quand Marie-Lou danse reggae, petit détail à divulguer, en petit nègre dialogué, après l'amour pissé sa gay.
Cette pépite signée Claude François qui a mis sa toute petite pierre au cairn du reggae français. On va vite oublier cette merde pour en écouter une autre. Il s'agit d'un maxi de deux titres signé Doudou, un disque un peu obscur paru en 1977 et qui reprend deux classiques de Max Romeo, One Step Forward et War in a Babylon. Super, me direz-vous, sauf que les paroles sont à chier, attention, ça pique un peu, mais ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Comment sombrer pour mieux remonter la pente, le reggae français est aussi passé par là à l'époque du disco et des concours de danse. C'est parti.
Na 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 na.
Jamaïque, du sable à perte de vue, quelques fillettes de minuit. Petits voiliers qui dansent, entraînés par le vent.
Un pas devant, deux pas derrière. Et c'est ça le reggae. Un pas devant, deux pas derrière. On danse le reggae. Oh yeah, oh yeah. Na 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 na.
Mais 1977, on avance dans l'histoire du reggae dans ces années 70. Bob Marley et sa troupe débarquent à Paris pour un concert mémorable au pavillon de Paris. Les médias français y étaient. Pas les médias mainstream, bien entendu, mais on peut entendre ce petit reportage commenté par deux journalistes qui débarquent un peu, mais qui essaient quand même de présenter au mieux la venue du gourou du reggae à Paris. On pourra entendre également en fin de reportage un extrait de ce concert parisien. On avance dans l'histoire, on est en 1977.
Cet homme de 1m60 avec ses anglaises frisées ne se contente pas d'hurler une musique coup de poing. Bob Marley jette également un cri de révolte contre la misère et l'oppression. Il traîne dans son sillage le Rastafari, cette religion solidement implantée à la Jamaïque, qui interdit à ses pratiquants d'absorber de la viande ou du sel, et qui surtout prône le retour aux sources de la négritude, le retour à l'Éthiopie.
Le reggae, c'est devenu important pour les Français, mais ça l'était déjà beaucoup pour les Anglais et puis pour les Américains, parce que ça permettait un renouvellement, une nouvelle fraîcheur de tout ce qui touchait un petit peu au rock music et à la pop music. Et le reggae, c'était déjà avant tout un rythme très 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 lancinant, une musique qui est typiquement jamaïcaine, mais qui est assez neuve, parce qu'en fait, c'est une musique qui date des années 60, un tas de mélange de vieux rhythm and blues américain, puis de la musique typiquement jamaïcaine de là-bas, qui donne vraiment un truc qu'on peut faire nulle part ailleurs, je crois. Mais vous, vous avez réussi à avoir une interview de Marley. Oui. Moi, j'ai jamais réussi à en faire une seule dans toute ma vie.
On doit l'interviewer ce soir.
Je vous souhaite bien du plaisir parce que tout ce que j'ai lu de lui au point de vue interview, c'est totalement dément. D'abord, ils sont tellement défoncés. Il faut dire que le ganja, la marijuana jamaïcaine, se fume là-bas comme une herbe médicinale ou presque. Ils en fument des tonnes. Et alors, il va être à trois pieds au-dessus de terre quand vous allez interviewer. Je vous souhaite bien du plaisir. Ça va être drôle.
Music is all about music.
Oh, la musique, c'est toute la musique.
More than music, isn't it?
Mais c'est plus.
Yeah, you know, unity of the world.
C'est sur l'unité du monde.
Unity of the world, people.
Sur les gens qui se réunissent et qui vivent comme un seul.
You mean peace ideas?
Peace ideas.
Des idées de paix?
Well, not really ideas.
Oh, pas vraiment, plutôt la réalité de la paix.
Dans les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, le reggae est déjà beaucoup mieux implanté et mieux diffusé en cette année 1977 grâce à la proximité géographique et culturelle avec la Jamaïque toute proche, mais aussi grâce à un groupe de Dominicains qui résident en Guadeloupe. Ils jouent partout sur l'île et leur répertoire est soul funk mais aussi reggae, comme en témoigne ce titre Down Pression. Le groupe s'appelle Exil One.
In debris in memorial to their presence.
These days we no longer live in ignorance. Oh,
so that place like I'm squeezing in, but one day we gonna have our chance.
Après cette brève escale dans les Antilles françaises avec ce titre de Exil One, retour en France où en 1978, le reggae passe enfin à la radio de manière plus systématique dans les radios pirates, comme on le verra après, mais aussi sur la radio d'État, France Culture. Petit rappel à l'époque, l'État détient le monopole de la diffusion radiophonique. Il y avait France Culture, France Inter et puis deux radios privées qui émettait en dehors des frontières françaises, RMC qui émettait depuis Monaco, et RTL, la radio-télévision luxembourgeoise qui émettait, comme son nom l'indique, depuis le Luxembourg. En 1978, donc, une émission animée par Mary Wood, Les Nuits Magnétiques, va diffuser une playlist strictly reggae pendant 40 minutes non-stop. Ça va durer entre le 3 et le 7 juillet, avec 4 émissions au total. Certes, ça se passe la nuit, certes, ça se passe pendant les grandes vacances, mais il s'agit ici de la première vraie promotion du reggae à la radio d'État française, après celle de l'émission Bananas sur France Inter, où on pouvait entendre quelques titres seulement. On écoute l'intro à ces 4 émissions, où les protagonistes essaient de savoir si on dit reggae ou reggae. On en est au tout début des reggae en France. Archive.
Nuit magnétique. À la Weinstein. Bonsoir. Alain Weinstein, les programmes de la semaine.
Comment faire? Le temps maussade se généralise. Nuages, pluie et froid. Déficit d'ensoleillement. Comment faire pour vivre au rythme de ses passions? Se laisser emporter par le reggae. Née en Jamaïque, cette musique, vécue à bras-le-corps, y est vite devenue une sorte d'invitation au voyage hors de la misère. L'invitation arrive jusqu'en Occident, où des groupes jamaïcains, surtout aux États-Unis et en Angleterre, font écho au chant des déshérités de Kingston. Goût de l'exotisme, support d'un discours politique violent, le reggae apparaît aujourd'hui comme un phénomène de mode. Qu'en est-il au juste? Pour répondre à cette question, tous les soirs de cette semaine, Géraldo Nunes, Charlie Wood et Marie-Pierre Perrault.
Quels sont les grands noms du reggae à l'heure actuelle?
Bob Marley ici, surtout, je crois. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a Burning Spear, qui est un très, très grand chanteur. Beaucoup de musiciens qu'on retrouve sur à peu près tous les disques qui sont produits à l'heure actuelle, mais qui, malheureusement, n'ont pas encore atteint la gloire. Mais il y a Robbie Shakespeare, Sly Dunbar, qui sont vraiment des très très grands musiciens. Il y a une production énorme et je crois que ce qu'il faut, c'est essayer de les rechercher, d'apprendre à les connaître et pas simplement de se concentrer sur les grandes vedettes.
Mais on dit qu'en France, l'entrée du reggae est difficile.
Je crois que c'est peut-être vrai parce que d'abord c'est une musique qui est très jeune, elle a tout juste 20 ans. Elle est arrivée en Angleterre il y a 10 ans à peu près et je crois que c'est d'Angleterre qu'elle nous vient, beaucoup plus que des États-Unis. Mais je pense que ça devrait marcher ici, pourquoi pas. Il y a, cela dit, un langage qui est un petit peu hermétique et puis il y a presque une philosophie derrière la musique qu'il faut apprendre à connaître et sur laquelle il faut réfléchir aussi.
Alors Géraldo Nunes, comment avez-vous conçu les émissions qu'on va entendre tous les soirs de cette semaine?
Le reggae étant articulé à la fois sur un problème religieux et un problème politique.
On dit le reggae ou le reggae?
Moi je dis le reggae, il y a des gens qui disent le reggae. Je crois que c'est un problème de comment dire reggae avec l'accent français. Comme moi je ne sais pas très bien comment
reggae.
On dit. Reggae. Eh bien, bon, on a essayé justement de montrer quel rapport le reggae entretient à la fois avec la religion qui est à la base de la musique et puis son côté de contestataire, le côté contestataire de la musique jamaïcaine. Parce que c'est aussi une musique un peu utopique par certains côtés, parce que la religion rastafarienne. Elle propose un retour en Afrique. Les Jamaïcains, le Rasta est quelqu'un qui est en attente. C'est le noir en attente à la Jamaïque, en attendant son retour en Afrique.
Les musiques que vous allez faire entendre, toutes inédites?
Je pense qu'une bonne partie, 80% de musique qu'on va écouter, je pense
oui.
que... C'est très difficile de les écouter en France.
Il y a beaucoup de musiques qui viennent directement de la Jamaïque et qui sont ce qu'ils appellent des pre-release, c'est-à-dire des disques qui n'ont pas de label. Mm. Et puis beaucoup de vieilles musiques, des musiques de 61, 62, 63. Beaucoup de Bob Marley à ses débuts, il y a 15 ans. Et vraiment Bob Marley, un Bob Marley merveilleux, plein de talent, plein de force.
Et en plus, on a des disques, ça on verra aussi dans le troisième volet qui est consacré justement à la production musicale. La production du reggae a un côté très caractéristique. La manière dont la musique est produite, c'est très très particulier. Et je pense que nous avons des disques qui ont été tirés à 4 ou 5 exemplaires. Il y a 4 ou 5 collectionneurs au Fana du reggae qui en ont. On a pu trouver ces disques-là.
Dans les radios pirates, le reggae a été présent dès 77, comme ce Radio Ivre qui avait une émission dédiée au reggae. Une émission appelée Radio Irie, émission animée par l'homme Patrick Legoni. Legoni, un grand fan de reggae, qui a aussi fait partie de Radio Nova après la fin de Radio Ivre. Il s'est éteint il n'y a pas longtemps, en janvier 2022. On va lui rendre un petit hommage avec l'enregistrement d'un des tout premiers sound systems français animés par ce même Patrick Legoni. Il présente l'histoire de ce mouvement musical au micro et enchaîne les classiques. Ça dure 12 minutes et ça a été diffusé en live sur Radio Ivre. Tout ça se passait, pour la petite histoire, en public à la Maison pour tous de Courbevoie. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire du reggae français. Nous sommes en 1979, voici ce que fut le ou un des tout premiers sound systems en France. Patrick Legoni, 79.
Les premiers disques de Sir Coxon sur Studio One ont démarré dans les années 65 et il a signé Bob Marley, les Heptones, Dennis Brown, les premiers Dillinger. C'est encore de rock reggae. Là, on aborde un second reggae qui est appelé Talkover. C'est un reggae qui est moins harmonique, mais qui a une extrême force.
Babylon a put on the pressure. Oh yes. Oh, time pressure.
Stand the pressure in a Babylon. Say that me can't stand the pressure in a Babylon. Say that a Babylon a put on the pressure, man.
À la recherche du groupe perdu, première émission du cycle sur l'histoire du reggae en France. Et pour cette première, on s'intéresse aux premiers pas du mouvement en France dans les années 70. 1979, je reprends le fil de l'émission. La première boutique spécialisée dans le reggae ouvre ses portes à Paris, mais dans un endroit pas très roots, la galerie Pawn Shop des Champs-Élysées. Il s'agit du magasin Blue Heaven tenu par les frères Jourdain, José et Alain. Blue Heaven, c'est un petit peu le ticaret du mouvement reggae. On y trouvait des singles, des maxi, direct from Jamaica. C'est dans cette boutique que se retrouvaient les premiers fans, parmi lesquels Aziz Azara, Bernard Loupias, Legoni, General Burning, Marc Bernard Chappie, etc. Ce sont des noms qui ne parlent à personne aujourd'hui en 2022, mais tous ces premiers activistes font aussi partie de l'histoire du reggae en France, c'est pour ça que je les cite. En tout cas, ces activistes à Paris, puisqu'il y en avait également à Marseille, tout aussi importants, ils font partie, toute cette clique-là des pionniers, tout comme Hélène Lee, journaliste pour Libération, qui revient tout juste de son premier voyage à Kingston. Elle publie dans la foulée plusieurs articles dans Libération sur la Jamaïque et le mouvement reggae. Elle publiera aussi des bouquins, trois au total, des documentaires comme le premier Rasta sur Leonard Howell. C'est la journaliste reggae numéro 1 en France encore aujourd'hui, la première à se baigner dans la culture Rasta. Comme elle l'expliquait en 2018 au micro de Gojo TV. Voici donc Hélène Lee qui nous raconte son parcours. C'est à toi.
On me demande souvent, après les débats ou dès que je parle du mouvement Rasta, qu'est-ce que une femme blanche a à voir avec cette histoire. Sur le moment, je me suis demandé un petit peu, moi aussi, effectivement, s'il y avait une raison à tout ça. Et puis, un jour, quelqu'un dans l'assistance m'a dit « Ah, mais c'est parce que tu es une huguenote, un protestante des Cévennes, des Parpaillots. C'est bien la même mentalité. » Et je me suis dit que ma foi, c'était peut-être pas faux, parce que mes ancêtres ont refusé de lire la Bible en latin. Ils voulaient que la Bible soit en français pour pouvoir la comprendre. Ils ont refusé d'acheter des indulgences pour aller au paradis. Ils ont décidé que le paradis, c'était quand on s'entendait bien et qu'on faisait ce qu'on voulait à sa maison, sur son terrain, sur sa terre, et que personne ne vous embêtait. Et ils sont partis dans les collines. Certains étaient des gens qui avaient un peu d'argent, qui vivaient pas mal, qui vivaient en ville avec les petits métiers, aiguiseurs de couteaux, enfin toutes sortes de petits métiers, mais c'était le début des villes en Europe. Et donc, quand ils ont vu qu'on ne les laissait pas faire ce qu'ils voulaient, qu'on les poursuivait pour penser autrement que l'Église, ils ont décidé qu'ils allaient partir dans les collines et vivre à l'écart de tout. Et j'y sens toujours. Et j'ai toujours ma maison là-bas. Et donc, ça fait quand même plus de 3 siècles qu'ils sont là-haut. Et je suis quelque part fière d'eux, ou plutôt j'ai grandi dans la fierté d'être... indépendante et libre de vivre comme je veux. Et donc, quand j'ai rencontré les Rastas, on n'a pas eu besoin de m'expliquer parce que c'était la même histoire. C'était vraiment des gens qui, tout simplement, avec bon sens, avaient dit « Laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire. » On a construit l'Empire anglais, on a construit les pyramides, on a construit tout ce qui est grand et puissant aujourd'hui, on a construit l'Amérique. Donc, on pourra bien se construire notre petite vie dans notre petite île.
Quand
ça,
même.
C'est rien du tout. Et donc, quelque part, pour moi, c'est la même chose. C'est des gens qui avaient envie de comprendre la Bible et qui se l'appropriaient, qui disaient qu'on n'avait pas besoin de personne pour la leur interpréter, qu'il suffisait de la lire et de réfléchir par soi-même, et que c'est pas tous les... prédicateurs qui viendraient avec telle théorie, telle théorie, telle théorie, et qui se mettraient sur la gueule avec les gens qui n'ont pas la même théorie qu'eux, ou pas le même dogme qu'eux. C'est pas ça qui était intéressant. C'est le contact direct avec la création, et c'est la foi en soi, la foi en son intelligence, en son bon sens. Et pour moi, les Rastas, c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai écrit 1, puis 2, puis 3 bouquins. Enfin, le dernier, c'est pas mon bouquin, c'est le livre, c'est l'autobiographie de Bill Howell, qui est le fils de Leonard Howell. Et c'est pour un peu pour compléter ma propre ignorance, parce que lorsque j'ai découvert ce mouvement, je suis arrivée là-bas tout à fait par hasard. Je suis arrivée en Jamaïque en 79, tout à fait par hasard, après avoir... tourné à travers le monde pendant plus de 10 ans, et quand je suis arrivée là-bas, je connaissais rigoureusement rien au reggae, à Rasta. Un jour, je me souviens, j'ai vu « la photo de Selassie, mais je connais, c'est un empereur éthiopien, ça, qu'est-ce qu'il fait là ?» Voilà. Et donc, j'ai tout découvert... petit à petit, à mesure que... Donc je suis rentrée en France parce que je me suis dit c'est une histoire qui n'est pas racontée, il va falloir la raconter. Je me suis rendu compte que le peu d'articles qui paraissaient étaient vraiment à côté de la plaque. Bon, les pauvres journalistes, ils arrivent, on leur paie 2 nuits d'hôtel à Kingston, et ils sont censés rentrer et expliquer la Jamaïque, les pauvres, c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Donc on en était à un niveau vraiment très bas, et comme moi je venais... J'étais au pays des aveugles, les borgnes sont rois, comme on dit. J'avais passé 4 mois là-bas, dans le milieu musical. En 4 mois, ça m'avait permis de commencer à défricher un petit peu l'histoire. Et donc, j'ai commencé à écrire dans Libération, puis dans Rock and Folk, enfin, dans les journaux musicaux de l'époque. Et du coup, j'ai voulu en savoir plus. Dès que j'ai eu le 3 francs 6 sous en poche, je suis repartie là-bas pour essayer d'approfondir un peu l'histoire. Et ça, c'était en 79. Et puis, dans les années 80, c'est la CIA qui était au pouvoir pratiquement. Et donc, je me sentais plus très bien là-bas. Et puis, mes copains se faisaient assassiner. Enfin, c'était quand même grave. Donc, et puis en plus, le reggae se détournait totalement des choses engagées et profondes, parce que justement, il y avait des menaces. Et donc...
Comment oses-tu me parler d'amour, toi? Pas connu Lola Rastaquer, je lui faisais le plein comme Olatte Coer, qui décolle en vibre ou en
Janvier 79, Serge Gainsbourg part enregistrer en Jamaïque. Il arrive incognito sur l'île avec aucun texte en poche. Il écrit tous ses textes en une nuit. Autour de Sly and Robbie, il retrouve le reste des musiciens de Peter Tosh, le percussionniste Tiki Thompson, le guitariste Radcliffe Bryan et Mickey Mao Chung. Les harmonies vocales sont assurées, s'il vous plaît, par les High Trees, Rita Marley, Jody Mowat et Marcia Griffiths, qui ne sont que les chœurs de Bob Marley, purement et simplement, rien que ça. Ajouter une pointure locale aux manettes, Geoffrey Chung, qui en 5 jours seulement posera en un mixage sobre mais efficace le style reggae de Gainsbourg, dans un éclair de génie ou par manque d'inspiration. Gainsbourg revisite ses tubes, la javanaise, Marilou ou la marseillaise, et ça marche avec plus d'un million d'exemplaires vendus assez rapidement. Gainsbourg n'avait jamais fait mieux. 1979, c'est donc le premier album de reggae français qui sort, même si c'est pas des français derrière les instrus, c'est le premier. Gainsbourg a œuvré dans ce style. On écoute Lola Rastaquare et sa version tub. C'est parti. En 1980, Bob Marley revient une deuxième fois en France après ses premiers concerts en 1977. Au Bourget, 50 000 personnes sont venues pour l'écouter avec ses Wailers. Beaucoup de jeunes, des jeunes surtout, le reggae en France à ses premiers adeptes. Le 18 octobre de la même année au Palais des Arts à Paris, c'est le premier concert européen d'un jeune Jamaïcain qui monte. Il s'agit de Hugh Mandel, 18 ans seulement à l'époque. Il disparaîtra prématurément 3 ans plus tard, mais il va laisser une grosse impression aux spectateurs venus assister au concert ce soir-là. Il joue avec un backing band anglais, le Brimstone Band. Le groupe anglais et Mandel ne se connaissent pas du tout, c'est un peu à l'arrache par moment. Mais ce live est super, on va s'en écouter quelques minutes. Nous sommes en octobre 80 à Paris. Avec l'homme nommé Hugh Mandel, musique.
I have for you tonight a very versatile, dynamic superstar, very talented, young, gifted. Whoa. And welcome, New Monday. Well, right now, I'm going to give thanks and praise to the King, you know. Who give an eye everything, who make an eye sing. Who give an eye the blessing, you know. Jah Rastafari.
Physical vibes, you know. See?
Pour ce premier volet des émissions consacrées à l'histoire du reggae en France, les premiers pas se font tout au long des années 70, c'est ce qu'on a vu tout au long de l'émission. La semaine prochaine, on sera dans les années 80. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'histoire. Prenez soin de vous, c'était À la recherche du groove perdu. Ciao. Yeah.
shall I come. Run, 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 revolution I come. The pretzel man's free, so we all can see. You're undoing and your brutality. Run, 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 revolution I come. Run, 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 revolution I come.